Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Avec nous au téléphone et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, pour évoquer avec elle, comme toutes les semaines, les grands titres de ce nouveau numéro à paraître ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence cette liste des grands titres de La Marseillaise avec la mobilisation contre la réforme des retraites avec l'expression de toute l'intersyndicale. Vous faites le point.
Oui. Tout à fait. Alors, on sera, évidemment, nous allons au lendemain de la première journée de grande mobilisation à l'appel de l'intersyndicale très large, puisque les huit principaux syndicats de salariés sont réunis dans une intersyndicale, donc c'est une première historique. Et nous nous sommes penchés aussi sur en allant interroger notamment des jeunes étudiants. Nous revenons aussi sur les arguments des partis de gauche et donc nous consacrons notre grand dossier sur ce premier acte de la bataille de retraite. Mmh. On reste sur... Oui.
Allez-y Françoise.
Oui. Alors j'enchaîne parce que sur le plan social, il y a aussi une information importante que mettons en avant. C'est la victoire que l'on peut qualifier d'historique du syndicat de combat universitaire de Montpellier à l'université Paul Valéry, puisqu'ils ont réussi à faire voter la fin de la sélection. Mmh. Et on va un peu creuser parce que ce n'est pas si simple que ça. Même si la sélection a été annulée par ce vote, la mise en œuvre de la non-sélection va être une autre paire de manches.
D'accord.
Alors après, nous allons évidemment poursuivre avec un sujet qui devient un peu récurrent, c'est-à-dire face à la flambée des prix, il y a des prestataires des cantines scolaires qui prennent un peu les collectivités, voire les communes à la gorge, hein, puisque là nous sommes à Castelnau-le-Lez, donc une commune à côté de Montpellier, où le prestataire a décidé de supprimer un ingrédient dans les repas des cantines, alors, ou le dessert ou l'entrée. Oui. Évidemment, les parents d'élèves sont vent debout. Le maire de Castelnau a décidé de lancer une consultation. Oui. Donc, nous expliquons un petit peu les dessous de cette histoire. Hein. C'est pas la première fois qu'une commune...
Et oui, on en parlait il y a quelques semaines.
Fait, oui, au Gros du Roi, c'était le cas. Mmh. On met aussi en avant dans ce numéro un grand événement culturel. C'est l'événement Danse Plateforma 23.
Mmh, dont Divergence est partenaire.
Complètement, Divergence est partenaire. C'est de la danse contemporaine et le thème cette année, c'est Acting for Peace, donc agir pour la paix, puisque ce festival se veut un pont entre les danseurs et les chorégraphes de l'Europe de l'Est.
Oui.
Les pays occidentaux. Et c'est la deuxième édition. Et c'est quelque chose qui rime avec la résistance aujourd'hui contre la guerre menée par Poutine en Ukraine. Mmh. Et on termine aussi notre séquence culture avec une note à la fois de gravité mais de légèreté, puisque nous avons un bel entretien avec la comédienne et chanteuse Camille Lelouch, qui, elle, va se produire sur la scène du Paloma mercredi prochain, le 25 janvier. Et donc, elle nous a accordé cet entretien où elle parle évidemment de sa passion pour la chanson et aussi de ses inspirations.
Allez, à la une de La Marseillaise, vous avez les titres, chers auditeurs, et on en parle tout de suite avec Françoise Verna.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
On commence, Françoise, avec le dossier de la Marseillaise qui va parler de la mobilisation contre la réforme des retraites.
Oui, tout à fait. Donc, on sait tous demain, jeudi, c'est un moment, on va dire, très important dans cette bataille des retraites. Donc, pour recontextualiser et rappeler quel est l'enjeu, c'est une mobilisation sociale contre ce projet de réforme et la volonté du gouvernement et d'Emmanuel Macron de reculer de 62 à 64 ans l'âge légal de départ.
Oui.
Alors, il va y avoir énormément de mobilisations ce jeudi dans notre région, en Occitanie, et dans l'Hérault, évidemment, avec des grandes, grandes manifestations qui sont annoncées notamment à Montpellier et à Béziers. Dans le Gard aussi, il y aura Nîmes, Alès, à Bagnols-sur-Cèze, hein, il y aura des mobilisations. Il y a énormément aussi de secteurs en grève. Dans le premier degré, c'est-à-dire les écoles maternelles et primaires, 70% des enseignants et des personnels ont annoncé qu'ils feront grève.
Hein. Oui.
Donc ça va être un moment à la fois important de mobilisation, de portée historique, hein, ça il faut bien le souligner, puisque il faut remonter à l'année 2010,
oui,
donc
il y a 12 ans,
pour avoir une intersyndicale complètement unie des 8 principaux syndicats français, hein, qui sont vent debout contre cette réforme, auxquels vient s'ajouter les organisations de jeunesse, hein, étudiantes et lycéennes, et dont ce dossier apparaîtra vendredi. Bien évidemment, nous aurons les comptes rendus sur le niveau des mobilisations, hein, en France et dans le département de l'Hérault et à Montpellier, et aussi une analyse, hein, sur la suite de cette bataille. La réforme des retraites nous concerne tous. On a interrogé en amont de ces mobilisations des jeunes, hein, notamment des jeunes étudiants. Alors ils sont très clairs, hein, puisque ils nous expliquent que cette réforme des retraites vient s'ajouter déjà à une vie de précarité ça va continuer, ça va aggraver, parce que pour les étudiants ou pour les jeunes, 43 ans de cotisation, parce qu'il y a le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans et il est couplé à une augmentation de la durée de cotisation à 43 ans dès l'année 2027.
Oui.
Donc ces 43 ans de cotisation, c'est quasiment impossible, disent les jeunes que nous avons interrogés, dans le marché du travail actuel. Et ils soulignent aussi quelque chose qui est souligné par tous les syndicats aussi, hein, c'est à savoir qu'il va y avoir la précarité du travail. Un tiers des travailleurs pauvres sont déjà morts à l'âge de 64 ans.
Oui.
Donc il y a une injustice, une brutalité, une injustice dans le cœur de cette réforme qui est fortement combattue. Les enquêtes d'opinion montrent qu'une écrasante majorité des personnes interrogées sont contre ce recul de l'âge légal. Alors je disais que c'était le premier acte du mouvement social, puisque il va y avoir aussi la bataille menée au niveau du Parlement.
Oui.
Hein. Au niveau du calendrier que nous allons rappeler évidemment dans le numéro de vendredi, le projet de loi va être présenté lundi 23 janvier, donc lundi prochain au Conseil des ministres, et deux semaines après, le 30 janvier, les discussions doivent arriver au Parlement. Et là, ça va être très intéressant de suivre, parce que bien évidemment, les oppositions de gauche et la NUPES sont complètement mobilisés et parlent d'une même voix contre cette réforme, mais on a aussi des fissures qui se font jour, y compris dans la majorité.
Dans la majorité, oui.
On a un député Renaissance, Patrick Vignal, pour ne pas le citer, qui, à l'heure où on se parle, dit qu'il ne votera pas cette réforme.
Oui, et une ancienne ministre aussi ne votera pas cette réforme fait partie de la majorité.
Donc, même si c'est intéressant de voir qu'une partie de la droite, puisque ce sont les Républicains qui ont passé, la direction des Républicains a passé un accord avec Elisabeth Borne, puisque l'idée des 64 ans et des 43 ans de cotisation, c'est le projet de la droite, les Républicains, oui. Mais au sein même de la grande, de la, on va dire, la famille politique de droite, il n'y a pas un cœur unanime en faveur de cette réforme. Mmh. Donc c'est des choses qui sont importantes à analyser et à pointer, d'autant que le mouvement social s'annonce important. Mmh. La grande question, c'est va-t-il s'installer ? Va-t-il s'installer dans la durée ? Va-t-il faire boule de neige ? Mmh. Puisque même si une grande majorité des Français sont opposés à la réforme, il y a un pas entre être opposé et aller se mobiliser dans un contexte de crise économique majeure, parce qu'elle intervient aussi alors qu'on est en grande difficulté pour la plupart des ménages pour boucler des fins de mois.
Oui, on peut dire aussi que, comme vous le disiez, c'est le premier volet de cette mobilisation, puisque visiblement le gouvernement n'est pas prêt à écouter, même en fonction d'une grande mobilisation, ce qui va se passer dans la rue, et essaie, comme vous l'évoquiez aussi avec une partie de la droite, eh ben, de faire passer de façon, on va dire... sans passer par le 49-3,
cette réforme. Mais... serait politiquement, ils veulent éviter, enfin, Emmanuel Macron et sa première ministre veulent absolument éviter d'en venir au 49-3, mais ils ont fait en sorte de pouvoir l'utiliser puisque c'est dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, une loi qui vient s'ajouter au financement de la sécurité sociale, qui leur permettra, si en dernier recours, d'utiliser donc l'article 49.3 de la Constitution, leur permettant de passer en force sans un vote des députés. Mmh. Le gouvernement peut aussi s'appuyer sur le Sénat, qui est de droite et qui pousse depuis très longtemps à cette réforme libérale de notre système de retraite. Donc il y a beaucoup d'enjeux, et il y a aussi à faire valoir, et on va s'y employer, on commence à s'y employer en donnant la parole à ceux qui portent d'autres propositions, puisque la majorité des gens sont contre cette réforme-là, le système de retraite par répartition mérite évidemment d'être réformé et de retrouver le sens véridique de la réforme, c'est-à-dire que ça soit un peu synonyme de progrès social. Puisque la réforme des retraites, le terme de réforme est devenu maintenant négatif, puisque ça accompagne toujours de régression sociale majeure. C'est encore le cas avec ce texte qui va encore plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Rappelons que en 1981, on a eu une grande conquête sociale de l'abaissement de 65 à 60 ans pour partir à la retraite.
Affaire à suivre sur la Marseillaise. On passe à la victoire historique du SCUM. On sait que c'était un petit peu leur cheval de bataille, notamment à l'université Paul Valéry de Montpellier, contre la sélection.
Oui, tout à fait. Alors, le syndicat de combat universitaire de Montpellier, le SCUM, se mobilise depuis très longtemps, depuis des années, pour permettre que l'université soit vraiment universelle, c'est-à-dire que puisse accueillir et les moyens d'accueillir les étudiants sans sélection. Mmh. On sait évidemment qu'on a déjà un système très sélectif avec Parcoursup. Qui s'ouvre aujourd'hui d'ailleurs. Et les universités aujourd'hui sélectionnent aussi leurs étudiants. Mmh. Alors pour bien comprendre la portée de cette victoire du SCUM, le 10 janvier, donc il y avait une réunion du conseil d'études de la vie universitaire, le CEVU. Donc c'est à l'occasion de la réunion de ce conseil des études de la vie universitaire, qui s'est tenu le 10 janvier, donc, que les élus étudiants, grâce à le soutien d'un enseignant et de deux élus de la CGT, ils ont réussi à être majoritaires et à faire voter la fin de la sélection à l'université Paul Valéry. Mmh. Mais il y a un grand mais, puisque pour que cette non-sélection et l'ouverture à tous soient effectives, il faut que l'université ait les moyens. Or, aujourd'hui, l'université Paul Valéry est sous-dotée. Mmh. Et donc, c'est un autre volet de cette bataille, hein, c'est-à-dire exiger les moyens pour que l'université Paul Valéry, qui est une université extrêmement importante, oui. Puisse accueillir le maximum d'étudiants qui souhaitent suivre les cursus sur les bancs de l'université.
Oui.
Le processus de sélection, il est donc annulé par le vote, mais dans les faits, la dotation budgétaire, c'est ce que nous explique Fabien Bon, qui est donc membre du SCUM,
oui.
La dotation budgétaire de l'université est en déficit, hein, avec il y a 11,3 millions d'euros de déficit.
Oui.
Et c'est une université importante, mais qui est la plus sous-dotée de France.
D'accord.
Donc c'est une vraie bataille à mener aussi pour que Paul Valéry ait les moyens d'enseigner correctement.
Mmh.
Il y a aussi, il faut voir comment va réagir le ministère de l'enseignement supérieur. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que bon, est-ce qu'il va prendre acte et donner les moyens, ou est-ce qu'il va faire annuler le vote ? Ça reste encore. Ça reste encore très flou et à déterminer. Hein. C'est à la fois à souligner, parce que c'est une vraie victoire historique, et on voit que les étudiants... Alors, il faut souligner aussi que c'est aussi parce que le SCUM est passé de 3 à 8 élus.
Oui.
Avoir une représentativité très importante au sein des instances de l'université,
mmh.
qu'ils ont réussi à faire voter cette non-sélection, c'est-à-dire concrètement, c'est la suppression du nombre de places fixées en
oui.
première année de licence et de master pour 2024, hein, puisque ça commence à ce niveau-là, c'est-à-dire dès l'entrée de l'université et après en master, où c'est encore tout un parcours du combattant pour les étudiants.
Mmh.
Donc c'est une victoire importante, mais il ne faut pas évidemment temporiser, mais il faudra suivre de près. Et le SCUM de Bespalagarde, puisqu'ils ont prévu d'organiser un rassemblement devant le rectorat à Montpellier,
oui.
le jeudi 2 février, à 10h.
D'accord.
Donc nous irons les rencontrer pour et puis nous irons aussi interroger évidemment l'université mmh. sur les décisions qu'elle entend prendre à ce sujet.
Et puis par la même occasion, ça sera une belle occasion de voir si la démocratie fonctionne encore dans ces universités, puisque quelque
c'est
chose a été
ça.
Voté. On va voir si ça va être suivi des faits.
C'est exactement ce que nous explique Fabien Bon et le SCUM en disant voilà, on ne peut pas dire que l'université fait des progrès en matière démocratique si on ne tient pas compte des votes qui y sont effectués. Évidemment, quand le vote ne plaît pas forcément au ministère,
et oui.
Voilà. Donc il faut vraiment une vraie vie démocratique, et puis surtout que l'université elle ait les moyens de pouvoir enseigner à tous les jeunes qui souhaitent mener leurs études. Hein.
Mmh. Allez, on passe à quelque chose de vraiment inacceptable, la suppression d'un ingrédient dans les repas des cantines de la commune. On en parlait pour une autre commune il y a quelques semaines de ça. Là, c'est la commune de Castelnau-le-Lez qui provoque,
oui.
Ça provoque la colère des parents et aussi du maire.
Oui, alors en fait, c'est simple, enfin, c'est implacable. Certains jours, le yaourt qui est supprimé,
mmh.
d'autres jours, c'est l'entrée.
Mmh.
Depuis le 3 janvier, ce sont les enfants de toutes les cantines scolaires de la ville de Castelnau-le-Lez
mmh.
qui se rendent compte que certains ingrédients disparaissent des menus.
Mmh.
Donc
ça veut dire qu'il n'y avait même pas eu, les parents n'ont pas été prévenus en fait.
Et oui, alors en fait, évidemment, les enfants ont fait savoir à leurs parents qu'il y avait des choses qui manquaient sur le plateau repas.
Ouais.
Donc les familles se sont inquiétées. C'est devenu une affaire politique, puisque le groupe d'opposition Ensemble pour Castelnau a fait un communiqué dans la foulée le 8 janvier. Qui dit c'est sûrement très intéressant pour la société en charge de la restauration, ce n'est pas acceptable pour nos enfants.
Oui.
Donc ça c'est Voilà. Mais alors, le maire Frédéric Laforgue est bien embêté, puisque en fait, il était en pleine discussion avec le prestataire qui n'est autre que le groupe Elior.
Oui.
Donc le groupe Elior, c'est pas non plus la petite cantine du coin. C'est
oui.
vraiment un très très gros groupe qui fait, on peut dire,
du bénéfice,
qui délivre un service, et qui fait de l'argent.
Oui, oui.
Donc, en gros, c'est assez exemplaire ce qui se passe à Castelnau-le-Lez, c'est-à-dire que ce prestataire va voir la mairie. Et lui dit, voilà, nous, nos coûts, ils augmentent de 18%.
Mmh.
Donc, à cause, évidemment, des matières premières, du transport. Évidemment, ils ne parlent pas de leur marge, mais bon.
Voilà.
le vrai problème, il est là. Donc, 18% d'augmentation. Donc, il y a des négociations, nous explique le maire, hein, qui, évidemment, s'explique dans la Marseillaise. Hein. Et donc, il y aura deux solutions. Est-ce que ce sont des vraies solutions? Mais en tout cas, soit les menus passent de 5 à 4 composants.
Mmh.
Alors, il nous explique avec le même grammage. On voit pas très bien comment, en supprimant un ingrédient, on garde le même grammage. Bon,
oui.
Soit les tarifs augmentent de 5 à 10%.
D'accord.
Alors, la ville, évidemment, elle voulait plutôt se diriger vers la première solution, mais elle avait l'intention, évidemment, d'en informer et de communiquer préalablement aux parents.
Oui.
Or, le prestataire, lui, se moque un petit peu de tout ça.
Mmh.
Et donc, dès la rentrée, après les vacances de Noël, a décidé de supprimer un ingrédient sur les plateaux repas de tous les enfants des écoles de Castelnau.
Mmh.
Et donc, la réaction du maire, évidemment, elle est assez courroucée. Et donc aujourd'hui, il va y avoir, aujourd'hui même à Castelnau, une commission des menus extraordinaire. C'est la commission qui est extraordinaire, pas les menus. Hein. et donc la ville va se lancer dans une sorte de sondage pour recueillir l'avis des parents.
On le connaît déjà, je pense.
Oui, alors Frédéric Laforgue nous explique qu'il veut savoir quelle est leur volonté.
De bien nourrir leurs enfants.
Ouais, pour être transparent et avoir un dialogue complet.
Mmh.
Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est important quand même. Depuis le 12, il y a eu suspension de la suppression d'un ingrédient.
Oui.
Mais parce que les parents se sont mobilisés et ont fait savoir leur mécontentement.
Oui.
Donc, depuis jeudi dernier, les menus ont repris leur consistance initiale.
D'accord.
Mais la ville devrait prendre une décision finale avant les prochaines vacances, donc les prochaines vacances d'hiver, de février.
D'accord.
Mais c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans de nombreuses communes. Et il y avait eu le cas du Gros du Roi,
oui.
Où en fait, les prestataires privés, eux, sont très brutaux.
Mmh.
C'est-à-dire qu'ils ont leur marge qui diminue, donc ils veulent répercuter les prix sur les collectivités, qui sont elles-mêmes en grande difficulté avec notamment la flambée des prix de l'énergie pour assurer le service public.
Mmh.
Mais là, on touche quand même au repas des enfants.
Et oui.
C'est un sujet même ultra sensible et on voit qu'ils ne prennent pas de gants. On pourrait aussi, et ça serait intéressant de voir, et je pense que nous allons le faire, voir comment ça se passe dans les cantines qui relèvent de la régie publique.
Et oui.
Voilà. Donc c'est intéressant de comparer, on va dire, les deux systèmes et de voir les limites, surtout du système privé, qui n'est pas là pour assurer un service public sans arrière-pensée de bénéfice, on va dire.
Mais bon,
voilà.
Si on fait un bref raccourci et il ne regarde que moi, on nous dit de travailler plus longtemps,
oui,
à coups de bâton, mais par contre, en France, on n'est pas capable de bien nourrir les enfants.
Oui, mais disons qu'on nous dit de travailler à coups de bâton, on n'est pas capable de aussi, ça tu as complètement raison, et on n'est pas capable aussi de faire en sorte que les personnes à partir de 50, allez, 45, 50 ans, puissent continuer à avoir un travail
oui,
correct.
Absolument. Alice, un petit peu de douceur dans ce monde de brut avec de la culture, et heureusement qu'il y en a, avec la présentation de la deuxième édition de Danse Platforma. Alors là, on reste dans la culture, mais toujours dans la société malgré tout.
Oui, en fait, Danse Platforma, c'est un projet extrêmement, un projet concret, hein, qui a déjà eu une première édition.
Oui.
Et en fait, c'est la volonté de danseurs, de chorégraphes, installés à Montpellier, de tisser des liens et de montrer la vitalité de la création de la danse contemporaine.
Oui.
Chez les artistes d'Europe de l'Est et les artistes de, on va dire, de l'Europe occidentale, si on peut parler comme ça.
Oui.
En tout cas, évidemment, ce projet a pris une dimension complètement incroyable depuis le 5 février dernier, puisqu'il y a eu le déclenchement par Poutine de la guerre en Ukraine. Et ça bouleverse évidemment énormément tous ces artistes qui ont décidé évidemment de s'engager pour la paix. Et c'est d'ailleurs la thématique de cette grande programmation de danse contemporaine. Donc ça, c'est à Montpellier, au Domaine d'Eau, mais il va y avoir plusieurs spectacles, il va y avoir des performances.
Mmh.
Ça commencera le 23 jusqu'au 28 janvier. Je sais que Divergence, vous êtes partenaire de cet événement.
Oui.
Il y aura donc des débats. Le thème, donc, c'est Acting for Peace, c'est agir pour la paix, et agir pour la paix avec, on va dire, entre guillemets, l'arme des artistes, c'est en l'occurrence les corps.
Oui.
C'est les corps face à la guerre, les femmes face à la guerre, et c'est surtout faire vivre les valeurs en faveur de la paix. Et on est dans un temps historique aussi, hein, où l'Europe est à la guerre en son cœur en ce moment.
Oui.
Et donc ces artistes qui sont courageux, hein, courageux dans le sens où ils s'exposent toujours, et ils s'exposent d'autant plus que la plupart sont d'origine russe, hein,
oui.
Ils prennent des positions. Hein, on peut citer la compagnie de Mitya Fedotenko, qui s'appelle Autre Nina.
Oui.
Depuis la création de cette compagnie, c'est vraiment le pont entre l'Occident et les pays d'Europe de l'Est, hein, en faisant ce qu'on avait reçu dans les studios de Divergence. Ce chorégraphe,
oui.
Hein, qui vous expliquait que maintenant, ce qui était important, c'était d'agir, l'action. Et l'action pour des artistes, c'est de faire de l'art et d'y donner du sens à cet art.
Absolument.
Il va y avoir, on ne va pas donner toute la programmation parce qu'elle est très dense.
Qui est fournie, oui.
Elle est très fournie. On peut tout retrouver, bien évidemment, déjà sur le site de la radio, hein, Divergence.
Oui.
Hein. Nous donnerons, nous aussi, dans la Marseillaise, tous les liens. Il va y avoir aussi des performances et des spectacles, des performances, comme je le disais. Et ce qui est important à souligner, c'est l'art comme acte politique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien de neutre dans la création artistique. Nous sommes là dans un moment important, d'un point de vue qualitatif, pour les spectacles proposés et aussi pour le niveau de conscience de tous ces artistes qui se démènent. Pour que ce soit l'art qui parle et non pas les armes, parce que les armes ne parlent pas, elles tuent.
Oui. Et puis c'est une belle façon aussi de montrer que la folie de quelques-uns ne fait pas foi pour tous les autres. Allez, si on se dirige du côté du Gard avec un bel entretien qu'a réalisé la Marseillaise avec la comédienne et chanteuse Camille Lelouch.
Oui. Alors nous, on est vraiment très contents d'accueillir dans nos colonnes cette artiste, Camille Lelouch. Hein. Donc, alors, elle sera sur la scène du Paloma, c'est mercredi prochain, c'est le 25 janvier, à 20h30. Hein, c'est sa première tournée en tant que chanteuse. Hein. Oui. Donc, elle a choisi notamment Nîmes, elle ira aussi ailleurs. Hein. Et donc, dans cet entretien, elle nous parle des grands artistes qui l'ont inspirée. Hein, beaucoup des chansons à texte, bon, évidemment, Jacques Brel et Edith Piaf. Hein. Elle nous livre aussi sa définition hein, de l'artiste, parce que c'est une artiste complète, Camille Lelouch. Hein. On l'a découverte humoriste, c'est oui. une autrice, elle est chanteuse, elle est comédienne. Et donc, ce concert, c'est vraiment l'occasion de découvrir une facette de son talent. Hein. Ben, elle a une voix assez unique et vivante. Oui. Hein. Et donc, elle invite de façon toujours avec son sens de la formule et toujours entre rire et larmes, justement, le public à venir en basket pour danser avec un mouchoir aussi pour pleurer, car il y a toujours beaucoup d'émotions et de force aussi dans ses textes. Donc, on peut avoir un avant-goût en allant écouter des textes comme « T'es où ?»,« Ne me jugez pas ». Et son album qui s'intitule « A », comme la première lettre de notre alphabet,
oui.
et qui a été réédité là récemment.
Eh bien, en tout cas, tous ces titres sont évidemment et bien plus encore à retrouver en kiosque dans la Marseillaise à partir de ce vendredi. Quant à nous, Françoise, on se donne rendez-vous oui. à partir de la semaine prochaine, évidemment.
Bien sûr, avec un grand plaisir.
À la semaine prochaine, Françoise.
À la semaine prochaine.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Verna. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.